Salut Amandine, salut Daniel.
Bonjour Marc.
Bonjour Marc.
Ravi de vous retrouver. On est toujours dans ce cycle africain de ce que fait Planète Urgence pour reboiser, sensibiliser et aider les communautés locales dans ces grands projets dans le monde entier. Et en Afrique, en fait, il y a les deux projets. Donc, on a décidé de consacrer le quatrième épisode de cette série africaine. Alors, non pas, vu qu'on avait tout dit, au Cameroun de René, mais au Bénin de Daniel. Daniel, peux-tu tout simplement nous dire qui tu es, comment tu t'es retrouvé à travailler pour la forêt, en quelques mots?
Moi, c'est Daniel Chabiboni. L'amour avec la forêt date de très longtemps et depuis le tout jeune âge, j'accompagnais mon père dans nos champs qui jouxtaient avec des forêts primaires. Et là, je voyais un grand nombre d'espèces et j'ai pris le goût avec la faune et autres.
Donc, la chance de travailler pour protéger les forêts aujourd'hui. Quels sont les projets qui sont menés par Planète Urgence au Bénin? Comment on répare la forêt au Bénin? Amandine.
Du coup, Planète Urgence, on va avoir trois activités au Bénin. La première, ça va être toujours du soutien des ONG locales, des acteurs locaux, notamment à travers du volontariat. Mais on a aussi deux projets qui sont un peu plus spécifiques parce que liés à des besoins très particuliers sur le Bénin. Le premier, c'est la sensibilisation à l'environnement dans les écoles. On a un grand projet qu'on mène avec l'Agence française de développement où on va permettre aux instituteurs et aux enfants de vivre la forêt de façon plus intime, de la connaître, de l'aimer pour mieux la protéger. Donc, on va faire des jardins maraîchers dans les écoles, par exemple. On va travailler sur des jeux qui sont très liés à la biodiversité vraiment locale. Et puis, on a un autre projet sur la restauration et la conservation des forêts sacrées. Parce qu'il faut savoir qu'au Bénin, il y a 3000 forêts sacrées. C'est le cœur du vaudouisme. Et donc, on a un enjeu de les garder, ces forêts sacrées, et toute l'histoire qui va avec.
Daniel, dans ces forêts sacrées, il y a des animaux très emblématiques, notamment le python de Séba. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce python?
C'est le plus gros serpent du Bénin, autour de 4 mètres, parfois jusqu'à 6. Et puis ce serpent, il est craint parce qu'il porte en quelque sorte autour des divinités. On n'abat pas le python de Séba qui veut. Par exemple, il y a des anecdotes qui racontent que avant de tuer ou bien de tirer sur un python de Séba, il faut avoir eu dans votre famille quelqu'un ou une personne morte par morsure de serpent. Donc c'est une sorte de vengeance. Sinon, vous ne le touchez pas.
Ah oui, c'est un python sacré quand même.
Ne tue pas le python de Séba qui veut.
Ouais.
Il y a des tribus particulières qui peuvent le tuer, mais ce n'est pas tout le monde.
Très bien. Donc il y a aussi des varans du Nil.
Oui, le varan du Nil, qu'on appelle généralement le lézard vert. Le caractère mythique de ces varans, c'est qu'ils se retrouvent dans ces forêts. Ils ne sont pas braconnés comme ça, parce qu'il y a toujours des mythes autour. Sans oublier qu'en réalité, les forêts, c'est le site du vaudou. Hein. Ce sont des forêts aujourd'hui qui habitent tout ce qui est divinité vaudou. C'est là où on retrouve la forêt primaire, non dégradée, parce que protégée par les croyances. Voilà. Mais avec les changements globaux axés sur l'augmentation de la population, ces forêts ont commencé à être dégradées. C'est là l'intervention de Planète Urgence pour les restaurer. Ce que nous faisons, c'est enrichir ces forêts et sensibiliser les populations. Mais une troisième dimension, c'est créer les activités génératrices de revenus pour permettre à ces populations riveraines qui profitaient de la forêt de vraiment avoir d'autres revenus. Et là, nous faisons de l'apiculture, l'élevage des escargots géants.
Escargots géants?
Oui.
Que sont ces escargots?
Bon, les escargots géants, c'est vraiment des escargots qui peuvent atteindre jusqu'à 1 kilo.
Ah oui?
Et qui sont très vendus au Bénin, très prisés dans les hôtels. Donc, quand on arrive à les cultiver de façon facile, hein, quand on arrive à faire ça, c'est des revenus vraiment additionnels très énormes. Et ça aide beaucoup les populations à vraiment tenir dans des moments difficiles. Mais également, il y a à nous additionner la production des champignons. Parce que la forêt, ce sont des arbres et autres. Les champignons poussent, comestibles, qui sont également vendus, mais qui aident également des populations pour la consommation.
D'accord. Allez, pour finir sur les animaux emblématiques, tu m'as parlé beaucoup du singe vervet. Alors moi, c'est un singe que je connais un peu. C'est un singe qu'on a beaucoup étudié et on s'est rendu compte qu'il avait des cris différents suivant les attaques de prédateurs. Quand ça vient d'en haut, par exemple d'un aigle, bim, il fait un cri spécifique. Et quand c'est un animal terrestre, par exemple un léopard, c'est un autre cri. Donc c'est assez élaboré tout ça.
Ah oui, c'est exact. Le verveil, je pense que parmi tous ces singes, je ne vais pas dire que le plus intelligent, mais vu sa réaction, vraiment, ça, on a ses réactions différentes en fonction d'où vient vraiment l'attaque, d'où vient la menace, en fonction de ses cris.
Est-ce que, Daniel, dans ta besace, tu as d'autres êtres vivants emblématiques? Je pense aux arbres dans tes forêts sacrées, celles dans lesquelles tu travailles. Il y a évidemment des arbres fétiches, des arbres rois.
Ouais, des arbres qui vraiment habitent des divinités. Je voudrais parler de l'iroko, très célèbre au Bénin. L'iroko, c'est cet arbre fétiche. Hein. On ne touche pas à ses feuilles n'importe comment. On ne le coupe pas n'importe comment. Naturellement protégé.
Alors, il ressemble à quoi pour ceux qui n'en ont jamais vu comme moi? L'iroko, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il a comme spécificité, ce bel arbre?
Ah, sa spécificité, c'est que c'est un très grand arbre. De diamètre autour de 2,5 mètres. Et il peut atteindre autour de 15, voire parfois 17 mètres. Sa longévité, ce sont des centenaires. Hein. Il peut vivre 100 ans, 150 ans. Et voilà, si vous êtes jamais allé à Cotonou, le temple de Python, à Ouida, on en a un là qui est très, très emblématique.
Tu viens de dire deux noms et tout à l'heure tu parlais de vaudou. Moi j'ai appris que le fameux vaudou que je pensais spécifique plutôt des Caraïbes vient du fameux Dahomey, Amandine, du royaume de Dahomey.
Exactement.
C'était quoi Dahomey ?
En fait, ce royaume de Dahomey, donc sur l'Afrique de l'Ouest, regroupait ce qu'on connaît aujourd'hui du sud du Bénin, sud du Togo, une petite partie du Ghana et une toute petite partie du Nigeria, vraiment à l'ouest de Lagos.
D'accord. Et donc, le culte vaudou, il est originaire de là-bas, du royaume de Dahomey, c'est ça?
Oui, exactement. On l'a exporté vers les Caraïbes, l'Amérique du Sud, via l'esclavage. Mais à l'origine, le vaudou, c'est le Bénin. Le vaudou s'étale sur toute l'étendue du Bénin, avec des manifestations vraiment diversifiées. Quand on est dans le sud du Bénin, c'est plus fort, folklorique. Chaque clan, chaque maison a pratiquement son vaudou.
Tu veux dire ses rites?
Oui, ses rites, ses croyances. Et surtout, comment ça se manifeste, les habillements, les couleurs, tout ça, très riche. Et avec tout autour de l'huile rouge pour vraiment saluer les ancêtres, leur mémoire.
Et du coup, Daniel, comment ça se passe quand tu rentres dans une forêt sacrée?
Dans une forêt sacrée, d'abord, on n'y rentre pas comme ça. Parce que pour rentrer dans une forêt sacrée, il faut avoir l'autorisation de ceux qui gèrent le culte de cette forêt. Et là, vous passez d'abord par des étapes. À l'entrée, il y a autour du gros tronc principal, vous devez vous déchausser. Et après, il y a des rites à faire. Parfois même, il faut sacrifier un poulet, un cabri noir. Et ça vous ouvre les portes. Et dedans, vous avez la paix, toute la bénédiction, et vous revenez même demander de la santé hein, pour des maladies incurables et autres. À l'intérieur, vous pouvez prier. Et nous, les Béninois, on y croit fortement.
Et Daniel, tu m'as envoyé des vidéos où on voit vraiment des cérémonies d'accueil dans la forêt. Ça a l'air très émouvant, très fort, mais très organisé aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, il faut dire que l'accès à ces forêts, ce n'est pas un truc au hasard, hein. Quand vous arrivez dans le village, vous dites que vous voulez visiter la forêt, c'est d'abord on vous conduit vers le roi. Le roi, c'est le chef du village. Et il faut enlever ses chaussures, il faut aller vers lui en rampant.
Ah oui?
Oui, et c'est lui qui vous donne la bénédiction d'aller visiter vraiment la forêt. Et il vous dit ce dont vous avez besoin. Une fois là-bas, vous devez le dire intérieurement et vos vœux sont exaucés, quoi. Si bien que des femmes qui ont besoin d'enfants et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants vont dans ces forêts et prient. Et peut-être à la sortie, 2 ou 3 mois, elles peuvent entamer le processus d'avoir un enfant.
Et tu vois, je pense qu'on a, nous en France, en tout cas, perdu cette relation sacrée à l'arbre. L'arbre nourricier, l'arbre au cœur de la vie et l'arbre plus grand que nous. Je pense qu'il y a des vrais messages sur les forêts sacrées du Bénin.
C'est en train de revenir. Les arbres sont pour le coup superstars. Il y a eu des livres qui sont vendus dans le monde entier. Tu sais, on a reçu dans Baleine sous gravillon Ernst Tschirscher, que je salue, qui nous a parlé de ces arbres entre visibles et invisibles. Pour le coup, la relation à l'arbre, je pense qu'elle s'est considérablement améliorée ces 10 dernières années, je dirais. Même si, bon, on n'est toujours pas autant des Gaulois ou les druides. Enfin, c'était vraiment le peuple de l'arbre, les Gaulois. Hein. On se souvient de la serpe d'or de Panoramix, là, dans Astérix, mais c'est assez proche de la réalité historique. C'est-à-dire qu'effectivement, par le passé, les Celtes, par exemple, respectaient les arbres. Et dans beaucoup de peuples premiers du monde, effectivement, là, il y a une relation à la forêt, aux arbres, qui est plus, et c'est le cas dans ton pays.
Oui, il faut dire que, franchement, les relations, l'ethnobotanique avec les peuples du Bénin est très, très enracinée. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le caïcédra. Il n'en a pas un au Bénin où il n'a pas eu d'écorchure.
Le caïcédra?
Le caïcédra.
C'est quoi le caïcédra?
Le caïcédra, c'est cet arbre très, très géant, là, qui fait du bois d'œuvre pour les meubles, mais dont l'écorce est très efficace dans la pharmacopée traditionnelle. Donc, c'est pratiquement l'arbre le plus utilisé, si bien que l'écorce a été touchée un peu partout. Même en plein cœur de Cotonou, si vous arrivez, vous voyez ces arbres dans les grands axes, on a gratté pour prendre l'écorce.
Ça les fait mourir de gratter l'écorce?
Non, ça ne les fait pas mourir, mais il faut prendre soin de ne pas gratter. Par exemple, si toute la superficie est grattée, cela peut en pâtir. Mais très généralement, ça régénère et puis dans quelques temps, ça reprend. Voilà.
Ces forêts sacrées, Daniel, c'est ton axe de travail. C'est l'action de Planète Urgence au Bénin. Est-ce que tu nous détaillerais ce qui est fait concrètement? Vous faites quoi au Bénin pour prendre soin de cette forêt sacrée?
Au Bénin, on vient de boucler une phase pilote du projet Gapadou. C'est-à-dire, c'est un projet de restauration des forêts sacrées, axé sur principalement deux forêts, la forêt de Sérou à Djougou et la forêt de Doboni et à Bassila. Et on a planté autour de 150 000 arbres. Et il y a eu des pépiniéristes formés pour produire les plants. Il y a eu des apiculteurs formés. Et là, 60 ruches ont été placées de part et d'autre. Et là, dès que je rentre au Bénin, on atteint un record de 150 000 litres de miel.
Et j'imagine que l'argent des ventes sert à ces communautés qui, du coup, prennent soin de la forêt, c'est ça?
Oui.
Les abeilles ont besoin des forêts.
Voilà, l'argent de ces ventes, en réalité, vient pallier ces sensibilisations pour leur dire « Attention, la forêt, il faut la sauvegarder. Si on veut la détruire, ça sera difficile. » Mais également, et l'argent de la vente vient remplacer l'exploitation du bois dans la forêt à travers le bois énergie, le bois de charbon, le bois de chauffe, parce que au Bénin, on n'a pas le courant comme chez vous ici. Et puis, on doit utiliser la biomasse pour de l'énergie. Donc, en vendant autour des AGR et tout ça, la population arrive à...
AGR, on va juste rappeler, parce que les gens ne sont pas familiers de
ce
genre de jargon.
Oui, AGR, ce sont des activités génératrices de revenus, notamment l'apiculture, l'élevage des escargots, mais la production du champignon autour de ces forêts-là.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ces forêts sacrées, avant, elles n'étaient pas du tout touchées parce qu'on voulait les protéger. On sait qu'elles sont sacrées et on ne va pas y aller. Donc, si les populations y vont, c'est qu'elles n'ont pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de forêts non sacrées. En fait, il ne reste plus que ça en termes de forêts. Il ne reste plus que des forêts sacrées. Donc, quand ils vont couper du bois, ils savent qu'ils n'ont pas envie de le faire, mais ils le font parce qu'il y a besoin. Et donc, ce qu'on travaille aussi sur le projet, c'est réinstaurer du bois énergie en dehors des forêts sacrées, et puis mettre des espèces de protections d'épineux autour des forêts sacrées pour qu'elles restent celles-ci conservées et qu'il y ait vraiment des alternatives pour les populations.
Moi, je n'ai pas été rassasié d'escargots géants.
Bon, au niveau des escargots géants du Bénin, c'est des escargots qui peuvent peser jusqu'à 1 kg, ont une forme un peu ovale, très très riche en protéines et très recherchée par la population, les hôtels pour les touristes et autres. Donc une source vraiment génératrice de revenus, quoi.
Ouais, alors moi je voudrais te dire un mot sur ces gros escargots. Tu me confirmes que ce sont bien des acatines?
Oui, c'est ça.
Alors cet escargot est un des plus gros du monde, mais c'est aussi une des plus grosses catastrophes du monde. Je pense que c'est pas inutile de la raconter. Cet escargot, il a été introduit dans beaucoup d'endroits. Il a été introduit en Asie, il a été introduit dans les Caraïbes et partout où il est, il s'est reproduit. Il n'avait pas de prédateur. Enfin, c'est typiquement, il fait partie des 100 espèces les plus invasives du monde. Donc c'est un des plus gros, sinon le plus gros escargot du monde. Hein. Ça, on l'a dit. Énorme herbivore. On a fait, comme souvent, une énorme erreur, c'est qu'on a introduit des vers parasites qui étaient censés le réguler, mais en fait, ils sont attaqués à d'autres trucs. Donc, en fait, ça n'a fait qu'empirer la situation. Hein. C'est un grand classique dans les grandes bêtises d'Homo sapiens. Donc voilà, les acatines méritaient un mot. Ils sont originaires du Bénin. Tu dis, c'est bien, on les mange et tout, mais ailleurs dans le monde, bah, ils posent de gros problèmes, ces acatines.
Laissons-les au Bénin. Au Bénin, j'aime beaucoup cette relation à la nature qui est dans le quotidien. Il y a plein de citations qui existent. Nous avons le temps pour que j'en cite quelques-unes. Un écureuil se prosterne devant les empreintes d'un éléphant. On devrait respecter une personne aussi en son absence. L'oiseau qui demande la pluie n'échappera pas aux gouttelettes d'eau. Je ne sais pas si tu en as d'autres comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup.
C'est vraiment sympathique. Hein.
Toi, quel serait ton proverbe préféré?
Le proverbe béninois ou africain qui me plaît de plus, c'est « Fais le mort et tu verras ceux qui t'aiment réellement
». Et tu dis ça avec un immense et très beau sourire.
Dans le sud du Bénin, on dit « Le serpent a beau courir, il ne va pas plus vite que sa tête ».
J'ai pas compris encore.
J'ai rien compris, mais c'est pas grave.
Il y a une spiritualité qui nous échappe.
Ouais.
Voilà.
Bref, les fameux proverbes africains. Moi, il y en a un que j'aime bien, qui me paraît un peu lié. C'est un vieillard qui meurt et c'est une bibliothèque qui brûle.
Ouais.
Amandine, tu veux nous faire une dernière citation? Tu es très gourmande de citations.
J'adore les citations. C'est ce que tu as semé qui poussera. Elle
Ah
est
oui.
simple, mais elle est efficace.
Elle est simple.
Il y en a une qui est très drôle aussi. On ne chante pas une chanson qui n'est pas bonne à entendre dans la cour de sa belle-mère. Rien à voir avec la forêt, mais je la trouve drôle.
On dit souvent, quand la barbe de ton prochain brûle, mouille la tienne.
Ah, ça, c'est bien.
Ah ouais, elle est belle.
Ça, pour le coup, je la comprends plus. Est-ce que tu veux bien la répéter, Daniel?
Quand la barbe de ton prochain brûle, mouille la tienne.
Vu qu'on a la chance d'avoir René, ton collègue, qu'on a reçu à propos du Cameroun. Est-ce que René peut partager avec nous un ou ses proverbes préférés pour finir notre grand cycle?
Bon, en Afrique, on dit quand le vent souffle, qu'on voit les fesses de la poule.
Ah, encore un proverbe sublime. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que généralement, il y a des gens qui cachent leur vraie face.
Ouais.
Et c'est quand il y a
La difficulté.
la difficulté qu'on les découvre vraiment.
Que leur vraie nature est révélée. Est-ce que tu en as d'autres?
Oui, ça ne manque pas. On dit le bon bois a toujours des fourmis.
Le bon bois a toujours des fourmis.
Oui.
Ça veut dire qu'en gros, les riches attirent toutes sortes de pique-assiettes.
Oui, en quelque sorte, ça veut dire que généralement, c'est quand on est riche qu'on a plus de visites, quoi.
Ah bah oui. Oui.
Ouais. Donc le pauvre, là, il est dans son coin, personne ne lui rend visite, mais quand il y a, tu vois, quand il est bon, là, tu vois des gens qui vont venir grignoter.
Est-ce que tu en as un autre?
Oui, c'est le tonneau vide qui fait beaucoup de bruit.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire, en fait, que ceux qui bavardent souvent beaucoup là, ils font semblant, en fait, ils n'ont rien.
Ah oui. Alors, il y a un équivalent asiatique de ça que j'aime bien, qui dit « Celui qui parle ne sait pas, et celui qui sait ne parle pas. » Je trouve que c'est l'équivalent asiatique de ce que tu viens de dire.
Ouais.
Ils sont forts aussi, les proverbes asiatiques. Ok, voilà ce qu'on pouvait dire sur notre série africaine. On a eu la chance d'avoir vos deux représentants en Afrique. On a eu longuement René sur le Cameroun et puis on a eu la chance d'avoir Daniel sur le Bénin et ses forêts sacrées. On a eu la chance d'avoir 1000 proverbes. Donc ainsi s'achève notre immense série sur ce qui est fait pour la forêt. En tout cas chez vous, c'était bien de raconter ça à titre d'exemple. Comment on peut prendre soin de la forêt concrètement? En harmonie avec les peuples qui y vivent, c'est ce qu'on a essayé de faire dans toute cette longue série de 4x4 épisodes avec Planète Urgence avec vous. Chère Amandine, merci pour nous avoir aidé à préparer ces émissions, merci d'avoir été la co-présentatrice de ces émissions.
Merci Marc, merci pour ton écoute et ta passion. pour la biodiversité.
Merci à toi, Daniel. Merci à toi, René. On a la chance de vous avoir là à côté de l'autre. Allez, on s'en lasse pas. Moi, j'aimerais bien vous quitter sur un dernier proverbe africain à chacun.
On ne court pas plus vite que son ombre.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Ça voudrait dire que quand tu penses que tu es en train d'aller vite, sache qu'il y a des gens qui vont plus vite que toi.
Et toi, Daniel?
Qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement.
Ah, ça fait penser à L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Ce beau tout petit livre, mais qui est tellement porteur de ce mec-là, ce berger qui plante tous ses glands-là et qui, après sa mort, il y a une forêt qui apparaît.
Ouais. Et surtout porteur d'espoir. Enfin, c'est ce qu'on fait chez Planète Urgence. On plante des arbres pour faire vivre l'humain aussi de façon durable. Et en fait, c'est faisable, c'est possible.
Très bien, les amis. Ainsi s'achève notre grande série. Merci Amandine. Merci Daniel. Et vu que tu es là, merci René.
Merci Marc.
Merci Marc.
Merci Marc.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?